Bonsoir Fabienne Saintès.
Bonsoir Charline et tout le monde. À demain, même heure, même endroit. Soyez sages. Nous, c'est parti, comme chaque soir, pour le 18-20 de France Inter. Installez-vous, détendez-vous et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Et pour commencer, c'est Amélie Perrier pour le premier grand journal du soir. Est-ce qu'il faut retenir de cette journée? Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mercredi 25 septembre commence avec un glacier qui devrait nous servir d'exemple.
Un glacier sur le point de s'effondrer sur la vallée en dessous. L'exemple du plan Pincieux près de Courmayeur dans les Alpes illustre dramatiquement le rapport des experts du GIEC sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les océans et les glaces de la planète. Donald Trump a-t-il fait pression sur l'Ukraine pour enquêter sur son rival démocrate Joe Biden? Un résumé de son coup de fil à Kiev le met ce soir en très mauvaise posture, quelques heures après le lancement de la procédure de destitution. Elle a créé « Balance ton porc », le mot-clé sur les réseaux sociaux pour dénoncer le harcèlement dont sont victimes de nombreuses femmes. Mais aujourd'hui, la justice affirme que Sandra Müller s'est rendue coupable de diffamation. Et se jeter à l'eau quand personne ne vous a jamais emmené à la piscine, difficile pour beaucoup d'enfants des quartiers défavorisés. Des champions aujourd'hui organisent des cours de natation en Seine-Saint-Denis.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir on est très heureux de recevoir Jonathan Coe, le romancier britannique qui revient avec le cœur de l'Angleterre. Il nous amène avec ses personnages dans l'Angleterre qui plonge vers le Brexit pour nous aider à en comprendre les ressorts. Nous sommes en Casamance ce soir au sud du Sénégal avec des démineurs parce que le secteur est toujours jonché bien après les affrontements. Et puis 19h20, le téléphone sonne, allez-y, le standard est ouvert. Ce soir on parle de désubérisation. Les chauffeurs protestent contre leur statut, les coursiers aussi. La ville de Paris imagine interdire Airbnb à certains quartiers. Et c'est pareil d'ailleurs partout dans le monde. Cette économie collaborative qu'on nous présentait comme l'avenir est-elle en train de déchanter? Est-ce qu'on est en train d'en revenir? 01 45 24 7000.
France Inter.
Et si le réchauffement climatique vous paraît encore abstrait, eh bien regardez le glacier Plan Pincieux.
Un glacier du Val d'Aoste dans les Alpes italiennes. À cause des fortes chaleurs en août et en septembre, il menace aujourd'hui de s'effondrer sur la vallée en bas, à côté de Courmayeur. Célia Quiré, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Les autorités locales lancent une alerte le jour même de la publication alarmante du GIEC sur les glaces et les océans. On va y revenir. Plan Pincieux, c'est un exemple frappant. Il a fondu à vue d'œil ces dernières semaines, Célia.
Oui, ce glacier a perdu 35 cm par jour en moyenne cet été, avec des pics de 50 à 60 cm. Et aujourd'hui, un cinquième du glacier menace de se détacher. C'est la partie la plus basse, l'équivalent en eau de 100 piscines olympiques qui pourraient se déverser dans le Val Ferré. Le glaciologue du CNRS, Samuel Morin, n'est pas étonné.
Les glaciers évoluent depuis plusieurs décennies et un certain nombre de glaciers de basse altitude, ou des glaciers relativement petits, ont déjà disparu dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Il y a des exemples en Suisse, il y a des exemples en Italie. Il y a aussi un exemple en France, le glacier de Sarène, à côté de l'Alpe d'Huez. Un jour, il ne deviendra plus qu'un petit glaçon et puis ce sera fini. Les glaciers sont soumis à une réduction très forte de leur masse. Ils changent de forme, ils se rétrécissent et en général, on a l'impression qu'ils reculent. Et c'est quelque chose qui est amené à se prolonger au XXIe siècle, à se poursuivre, tant dans les Alpes que dans les Pyrénées, mais également à l'échelle de l'ensemble de la planète.
Or, cette fonte des glaciers a des conséquences, notamment sur l'accès à l'eau.
Les conséquences principales sont une modification du régime hydrologique, de la façon dont l'eau est disponible dans les rivières, dans la mesure où les glaciers fondent surtout pendant l'été. Donc il y a des enjeux sur l'eau, il y a des enjeux sur l'alpinisme, il y a des voies d'alpinisme qui sont déjà plus praticables. Ça a aussi un impact culturel pour les populations qui sont les plus proches. On a des exemples documentés dans ce rapport qui montrent en quoi la baisse de l'enneigement, le recul des glaciers, ça perturbe considérablement l'identité culturelle des populations, autochtones ou pas, qui vivent dans les zones de montagne.
Or cette fonte des glaciers semble inévitable. Tous les ans, 2 km² de glace disparaissent précisément dans le Val d'Aoste. 4000 glaciers des Alpes risquent de perdre 90% de leur matière d'ici la fin du siècle.
Célia Quiré, merci à vous. Un glacier au bord de s'écrouler dans la vallée le jour où les experts climat de l'ONU donc rendent leur rapport sur les océans et les régions glacées. Le GIEC nous confirme que les océans sont devenus plus chauds, plus acides et moins salés, avec toutes les conséquences sur la biodiversité que l'on imagine. Le GIEC annonce également que les phénomènes El Niño, qui encouragent les feux de forêt, les cyclones ou encore les épidémies, ces phénomènes vont être 2 fois plus fréquents à l'avenir. Et le niveau de la mer va monter de 40 à plus de 80 cm d'ici la fin du siècle en fonction du réchauffement climatique, avec des régions inondées, des exodes massifs des populations côtières et insulaires. On vous en dit encore plus dans notre dossier en une de franceinter.fr.
Aux États-Unis, Donald Trump a bien demandé à l'Ukraine d'enquêter sur le démocrate Joe Biden.
La Maison-Blanche vient de rendre publique la transcription d'un appel téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cela serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus, suggère l'Américain, lors lors de l'échange du 25 juillet dernier. Il propose même l'aide de son avocat Rudy Giuliani et du ministre de la Justice Bill Barr. Il faut expliquer que Joe Biden est bien placé pour être le rival démocrate de Donald Trump lors de la présidentielle l'an prochain. Ce coup de fil et son résumé écrit sont au cœur de la procédure d'impeachment, de destitution contre Trump lancée hier soir par les démocrates américains. Le président Trump vient de se défendre. Il n'y a pas eu la moindre pression, dit-il. Il l'a dit donc tout à l'heure lors d'une rencontre en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.
Il n'y a eu aucune pression. Vous avez inventé toute cette histoire, écrit que c'était un horrible coup de téléphone, alors qu'en fait c'était un coup de fil de rien du tout. Rien d'autre qu'une conversation au téléphone entre deux dirigeants pour se dire leur sympathie. Donc le problème, c'est que vous avez ces fake news, ces journalistes corrompus. Il y a de bons journalistes, mais il y a aussi des reporters corrompus. Excusez-moi. Si vous avez remarqué, la bourse a dégringolé quand hier elle a appris l'ouverture de cette enquête. Et puis les cours sont très vite remontés quand ils ont compris que c'était du non-sens complet. La bourse a remonté très fort. Merci beaucoup.
Et même dans le camp républicain, on doute. Mitt Romney, anti-Trump certes, hein, qualifie l'échange retranscrit de profondément préoccupant. Et tout le monde va scruter la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, prévue de longue date. Elle se tient dans quelques heures à New York. Les députés britanniques ont repris le chemin du travail au lendemain de la décision de la Cour suprême contre la suspension du Parlement, décrétée par Boris Johnson, le Premier ministre. Les élus y voyaient un empêchement à quelques semaines du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union est toujours fixée au 31 octobre. Seulement 2 jours de procès et le frère du président en Algérie condamné à 15 ans de prison, tout comme les 2 anciens chefs du renseignement et la dirigeante du Parti des Travailleurs. Ils ont été reconnus coupables de complot contre l'autorité de l'État pour avoir participé à une réunion en mars dernier après la déclaration du général Salah demandant le départ d'Abdelaziz Bouteflika.
Il est 18h07 sur France Inter. Elle a créé le mot-clé « Balance ton porc » sur les réseaux sociaux. En France, elle est aujourd'hui condamnée par la justice.
Sandra Müller vient d'être reconnue coupable de diffamation. Elle va devoir payer 15 000 euros de dommages et intérêts à l'homme qu'elle a accusé d'être son harceleur et 5 000 euros au titre des frais de justice. En octobre 2017, la journaliste appelée sur les réseaux sociaux à donner le nom des hommes qui abusaient de leur position au travail et de citer l'ancien patron de la chaîne Equidia. Dans son sillage, des milliers de femmes ont parlé. Mais aujourd'hui, Corinne Audouin, vous nous avez rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, le tribunal de Paris reconnaît que dans cette histoire bien particulière, il y a eu diffamation.
Oui, petit rappel, on est alors en pleine affaire Weinstein. Sandra Müller appelle les internautes sur Twitter à raconter leurs histoires de harcèlement sexuel au boulot. C'est là qu'elle invente le mot-clé « balance ton porc ». Un tweet plus tard, elle dénonce des propos dégradants tenus 5 ans plus tôt par Éric Brion. Pour le tribunal, il ne s'agit pas de harcèlement, il y a eu un fait unique. C'est donc de la diffamation, un soulagement pour Éric Brion.
Ce que la justice a dit, et c'est vital pour moi, c'est que non, je ne suis pas un harceleur sexuel au boulot, comme Sandra Müller m'en a accusé dans son tweet. Et donc je suis vraiment soulagé parce que j'ai traversé 2 années absolument horribles. J'espère pouvoir à nouveau travailler et retrouver ma vie d'avant, ma vie normale. La libération de la parole est extrêmement importante. Et la libération de la parole, elle ne doit pas se fonder sur n'importe quoi.
Pour le tribunal, Sandra Müller a manqué de prudence. Sous le choc, la jeune femme déplore le message envoyé par cette décision de justice.
Non, je ne m'attendais pas vraiment en fait. Je pense que c'est un peu dommage, mais qu'on va continuer à faire valoir nos droits. Et puis surtout, il ne faut pas que ça arrête les autres femmes. Parce qu'une procédure comme ça, qui me donne tort en fait, et qui donne raison à M. Brion, ça veut dire que les victimes qui ont déjà parlé, en gros, vont être démotivées. Que celles qui voudraient parler vont avoir du mal. Et en fait... clairement, le message qu'on fait passer, c'est « taisez-vous ».
Sandra Müller a déjà annoncé qu'elle allait faire appel de cette condamnation.
Merci Corinne Audouin. Les policiers du syndicat Alliance demandent à leur ministre Christophe Castaner de déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Il reproche au patron de la France Insoumise ses propos, filmés lors de la manifestation contre la réforme des retraites hier. À des manifestants se disant victimes de violences policières, Jean-Luc Mélenchon répond « Oui, c'est des barbares, soyez prudents parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant ». Inacceptable insulte à nos forces de l'ordre, a réagi le ministre de l'Intérieur. Jean-Luc Mélenchon, lui, répond que la démission du ministre serait plus utile. L'État français doit rapatrier les enfants des djihadistes bloqués dans des camps en Syrie. C'est l'avis, en tout cas, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Selon la CNCDH, plusieurs mineurs sont morts en Syrie où la situation humanitaire est désastreuse. Alors que la France refuse un retour général de ses citoyens retenus donc dans ces camps et plaide pour un rapatriement au cas par cas, la Commission demande donc à faire venir ou revenir ces enfants au plus vite, comme nous le dit Jean-Marie Delarue, le président de la CNCDH.
Il y a urgence parce que 300 enfants à peu près sont en situation de danger sanitaire, alimentaire, puisqu'ils maigrissent à vue d'œil et certains d'entre eux sont déjà morts. Le gouvernement dit « Ah, écoutez, c'est compliqué cette affaire, moi je vais rapatrier au cas par cas ». Nous lui demandons très précisément de décider aujourd'hui qu'il va rapatrier le plus rapidement possible tous ses enfants, sans exception. Ces enfants sont français, ils ont le droit de vivre en France, ils sont très jeunes pour la quasi-totalité d'entre eux, aucun obstacle en réalité ne s'oppose à ce que ces enfants reviennent en France, sauf un choix politique. Ces enfants ne sont pas terroristes, ni comme on les a qualifiés, des bombes à retardement, ce qui est une façon odieuse de qualifier un enfant qui ne sait même pas dans quel milieu encore il vit, parce qu'il n'en a même pas conscience. Donc les qualifier ainsi, c'est justifier mal une décision inacceptable.
Le président de la CNCDH, Jean-Marie Delarue, au micro de Sophie Parmentier. La fièvre contagieuse des urgences. Elle gagne aujourd'hui la maternité de la Riboisière. Dans l'hôpital parisien, une quarantaine de soignants lancent un appel à l'aide. Un cri de détresse face aux locaux vétustes, aux horaires à rallonge. L'accueil des mères ne peut pas se faire correctement, disent-ils. Sébastien Sabiron a pu faire le tour de cette maternité avec un infirmier en surchauffe. Reportage.
Vous voyez, les locaux sont tout petits.
Sourire un peu crispé, Tony Ferreira, infirmier, fait visiter les urgences maternité. Dans une salle d'attente exiguë, trois jeunes mères et leur bébé. Sans abri, elles dorment dans cette salle depuis leur accouchement il y a un mois.
Les dames dorment par terre, les bébés sont sur des draps avec des sortes de petits berceaux en plastique. Il y a juste des toilettes, c'est tout.
Et ce n'est pas le seul exemple dans cet hôpital qui accueille 40% de patientes en grande précarité. Les soignants dénoncent des locaux vétustes qui ne seront pas rénovés avant 2023.
Il manque du matériel, on a des douches qui fuient depuis des années, donc on doit mettre des draps en bas pour qu'il n'y ait pas de l'eau dans les couloirs. En hiver, il fait extrêmement froid. Et en été, c'est un sauna, quoi. Il fait plus de 40 degrés dans les étages. On traite les patientes mal, mais nous aussi, on nous traite mal. On travaille dans ces conditions avec beaucoup de désespoir maintenant.
À cela s'ajoutent des rythmes effrénés, des heures supplémentaires en pagaille et des arrêts de travail qui ne font qu'aggraver la situation, estime Tony Ferreira.
Tout le monde craque. Tous les jours, les gens pleurent. Nous, on est en danger. Nous, le personnel, les patientes sont en danger. Les bébés sont aussi en danger. Est-ce qu'il va falloir, comme aux urgences générales, un bébé décède, comme il y a une patiente qui a décédé il y a un an aux urgences générales, pour que les gens ouvrent les yeux?
L'assistance publique hôpitaux de Paris reconnaît des dysfonctionnements. Elle promet la création de 5 postes supplémentaires et de remplacer une partie des infirmières par des sages-femmes. Des propositions comptables et moyennement convaincantes, estiment les personnels en colère.
Il manque encore près de 3 900 000 signatures pour valider le référendum d'initiative partagé sur la privatisation d'aéroports de Paris. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a fait un pointage ce matin sur France Inter. Pour l'instant, 822 000 signatures ont été enregistrées.
Allez, Mélie, on termine avec des enfants qui se jettent à l'eau.
Et ça n'a rien d'évident dans certains quartiers défavorisés où ce n'est pas dans la culture ou les habitudes des parents d'emmener les enfants à la piscine. Des champions ont donc décidé de s'engager. C'est le programme Nageurs et citoyens, porté notamment par Yannick Agnel, double médaillé olympique en 2012. Amaya Cazenave assisté à un premier cours de natation pour 130 enfants à la piscine Rosa Parks de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Bonnet de bain vissé sur la tête et lunettes de Nemo bien serrées, Kajatou, 6 ans, est accompagnée par Charlotte Bonnet, médaillée olympique à Londres. La fillette n'avait jamais mis les pieds à la piscine avant cette leçon.
J'avais peur, très peur même, et là c'est fini.
En Seine-Saint-Denis, les chiffres sont inquiétants. Un enfant sur deux ne sait pas nager avant d'entrer au collège. Les maîtres nageurs, comme Romain, font ce qu'ils peuvent pendant l'année scolaire. Mais la natation, contrairement au foot, ne fait pas rêver les enfants. Et les obstacles financiers et culturels sont nombreux.
On est sur une commune pauvre et en limitrophe, nous avons le Raincy qui est l'une des villes les plus riches de l'Île-de-France. Clichy-sous-Bois ne vient pas à la piscine. La clientèle que nous avons actuellement, c'est la clientèle du Raincy et de Livry-Gargan. En gros, les villes aisées, les enfants que nous récupérons en CM2 actuellement depuis début septembre n'ont pas remis les pieds à la piscine depuis mars ou avril.
Une situation inconcevable pour le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein.
On ne faisait pas de séjour mer parce qu'on avait trop d'enfants qui ne savaient pas nager et on ne pouvait pas faire une activité kayak, une sortie, etc. Donc c'est stigmatisant dans la vie de tous les jours. Et puis c'est dangereux.
La noyade est en effet la première cause de mortalité accidentelle chez les moins de 25 ans en France.
Nageurs et citoyens pour que tous les jeunes puissent découvrir les joies du bonnet et du chlore. Non, on adore ça.
On adore, c'est vrai. Le mercredi, c'est cours de crawl. Amélie, merci beaucoup. À tout à l'heure.